Du 3 au 13 décembre, hashtag 2050 le podcast, votre shoot de futur, passe en édition spéciale, ancrée dans le présent, à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. 10 jours d'une quotidienne pour comprendre la COP, découvrir les acteurs qui y contribuent, des initiatives, mais aussi entendre des voix peu entendues et pourtant engagées dans la lutte contre la crise climatique. Parce que le futur de notre planète se joue ici et maintenant. C'est une conversation que je vous propose aujourd'hui. Elle aurait dû avoir lieu dans un petit salon bruyant de la COP25, mais un contretemps a changé le décor. Nous sommes au téléphone, l'un en Espagne, l'autre en France. Cette conversation, elle est particulièrement utile à quelques heures maintenant de la clôture de cette 25e édition de la conférence des parties. Parce qu'avec mon invité, nous balayons les points clés des négociations, tout en nous adonnant à notre rituel, celui du voyage dans le temps. Ah ah, mais vous vous demandez de qui il s'agit, n'est-ce pas ? Il s'appelle Clément Sénéchal et est porte-parole de Greenpeace France. Il suit de très près les négociations en cours. D'ailleurs, je le précise d'emblée parce que nous évoquerons l'Europe au fil de notre conversation, enregistrée avant la présentation du Green Deal d'Ursula von der Leyen. Mais à lire le communiqué de Greenpeace post-présentation, je pense que l'ensemble des propos de Clément reste d'actualité. Bonjour Clément.
Je n'en dis
Bonjour.
Pas plus.
Pour commencer, j'aimerais connaître un peu mieux ton parcours, parce qu'aujourd'hui tu es porte-parole des politiques climat pour l'ONG Greenpeace France. Quel a été ton parcours et comment tu en es arrivé à t'impliquer au sein de Greenpeace ?
Alors moi j'ai grandi dans les Alpes, à la montagne, où j'ai eu un contact privilégié avec la nature assez tôt. Ensuite j'ai étudié la philosophie politique, hein, très bêtement la question de savoir comment s'organise le monde et pourquoi. Ensuite j'ai fait un peu de journalisme, j'ai été aussi un militant politique engagé dans plusieurs aventures politiques. Et à la suite de quoi j'ai décidé de me déplacer plutôt dans la société civile, et de rejoindre Greenpeace, qui était vraiment l'ONG sur laquelle mes yeux brillaient depuis que je suis tout gamin, et pour son indépendance aussi, qui me semble clé, parce que voilà, l'écologie politique, c'est une question qui me travaille depuis longtemps, donc c'était pour moi la meilleure place où mener la lutte.
Alors, la COP25 a démarré depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Quelles étaient tes attentes, les attentes de Greenpeace pour ces négociations ?
Alors, la COP25, elle a plusieurs enjeux, mais la situation, elle est très compliquée aujourd'hui au sein de la diplomatie climatique. Et donc, le premier enjeu, c'est déjà de faire en sorte que l'accord de Paris survive. Parce qu'aujourd'hui, on a une crise qui est profonde. On a une défection assez généralisée des plus gros émetteurs, hein, puisqu'on a les États-Unis qui ont confirmé leur volonté de sortir de l'accord de Paris début novembre. On a le Japon qui a décidé de ne plus jouer le jeu de l'ambition. On a la Russie qui n'a toujours pas de feuille de route sur le climat. On a l'Australie, le Brésil qui sont dirigés par des climatiques sceptiques notoires. Et face à ça, on a une Union européenne, donc une partie en tant que telle lors des COP, dans les négociations climatiques. Et cette Union européenne, elle ne parvient pas non plus à donner change et à prendre du leadership sur les questions climatiques. Puisque pour le moment, les 28 n'arrivent pas à se mettre d'accord pour mettre sur la table des engagements qui soient compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris. Et je les rappelle, c'est de limiter la hausse des températures d'ici à la fin du siècle à plus 1,5 degré. Aujourd'hui, on est à plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on a déjà des phénomènes climatiques qui sont totalement ingérables à plusieurs coins de la planète. En 2019, on a eu la deuxième ville du Mozambique, hein, Beira, qui a par exemple été rayée de la carte. Une ville en Inde de plus de 10 millions d'habitants qui a été frappée par la sécheresse et qui a dû faire face à une pénurie d'eau généralisée. On a eu des incendies monstres, hein, en Russie, en Amazonie, encore en cours en ce moment même d'ailleurs en Australie, avec des fumées, avec des gaz toxiques énormes dans plusieurs villes. Et on a eu en France et en Europe des vagues de chaleur exceptionnelles avec beaucoup de morts, hein, plus de 1500 morts, il me semble, en France. Donc les dégâts du changement climatique sont déjà là et pour l'instant, les États qui se réunissent à cette COP ne parviennent pas à s'entendre pour mettre sur la table des engagements qui soient à la hauteur du défi, donc qui répondent à ce qui est écrit, hein, noir sur blanc dans l'accord de Paris, qui ne parviennent pas à respecter le régime de l'accord de Paris pour le moment. Et la France elle-même, alors qu'elle est attendue, alors qu'Emmanuel Macron multiplie les grands discours sur la scène internationale comme il a pu le faire cette année à l'occasion du G7 ou à l'occasion du sommet spécial de l'ONU sur le climat qui s'est tenu en septembre Emmanuel Macron a eu des mots très forts, hein, même pour mettre en cause, hein, appelé à dépasser le capitalisme parce qu'il a des effets destructeurs sur la planète. La France ne tient pas son rôle. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à excéder le budget carbone que s'est fixé la France. On n'a eu aucune décision structurante vraiment pour faire baisser ces émissions depuis qu'Emmanuel Macron a pris le pouvoir. On a une contradiction permanente, une incohérence permanente au sein du gouvernement, notamment sur des dossiers emblématiques, comme par exemple sur l'huile de palme, hein, où le gouvernement a continué à soutenir effrontément Total sur le maintien d'une niche fiscale pour l'huile de palme dans les aérocarburants, alors qu'il s'était engagé à faire l'inverse. Donc voilà, donc on a une France qui est empêtrée dans un écart permanent entre les beaux discours et les actes, avec un pouvoir politique qui est largement à la botte des industriels et des grands pollueurs qui continuent de s'en sortir. Et après, concrètement, on refuse d'appliquer des lois coercitives sur l'économie, alors que les rapports scientifiques, hein, qui se changent en réquisitoire aujourd'hui, hein, vu l'urgence de la crise, les rapports scientifiques sont très clairs. Il faut changer d'économie politique. Voilà. Et aucun État développé pour l'instant qui est prêt à le faire. Et pas plus la France que les autres États, malheureusement. Voilà. On attendait Emmanuel Macron à cette COP. Il ne se rend même pas sur place. Il avait dit cet été aux jeunes d'aller manifester en Pologne. Sauf qu'en Pologne, il y a la COP24, qui était une COP importante, il n'y était pas. À cette COP-là, il n'y est pas non plus. Donc, la société civile, les jeunes font leur devoir, les scientifiques font leur devoir, mais Emmanuel Macron ne fait toujours pas le boulot. Et donc, au final, on n'a pas de leadership dans les négociations climatiques. Et on va se retrouver avec une COP qui a des décisions à prendre sur pas mal de sujets, on peut les balayer peut-être,
oui, on va y venir, ouais,
un peu plus tard, et qui risque encore une fois de se terminer dans une impasse. Donc voilà, ce qui est en jeu, c'est la survie de l'accord de Paris, parce que l'année prochaine, à la COP26, c'est l'entrée en vigueur, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc si les choses ne sont pas réglées, si les États n'arrivent pas en ordre de marche, en ordre de bataille à cette COP26, ça voudra dire que l'accord de Paris est largement discrédité.
Alors justement, je discutais, parce qu'il y a aussi un bras de fer entre les pays du Sud et les pays du Nord. Je discutais avec un membre de la délégation béninoise qui me disait, alors c'était vendredi, hein, déjà, qu'au vu des négociations en cours, il se demandait si les pays du Nord ne regrettaient pas d'avoir signé finalement l'accord de Paris.
Non, effectivement, c'est une question qui se pose, hein. On signe des beaux accords au niveau diplomatique, mais finalement, on n'a pas envie de concéder les efforts pour atteindre ces objectifs. Effectivement, les pays développés, ils sont dans une situation où ils ont une dette climatique qui est énorme par rapport aux pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des efforts beaucoup plus fournis que les pays en voie de développement. Dans une économie mondiale qui est basée sur la compétition à généraliser entre les différentes nations, les entreprises, etc., bah voilà, c'est compliqué pour ces pays-là de faire les efforts de sobriété nécessaires, de jouer le jeu, de faire les transferts financiers adéquats pour que les pays vulnérables s'adaptent, atténuent leurs émissions de gaz à effet de serre, etc. Et on a effectivement cette situation où, dans les pays dits du Nord, entre guillemets, il y a ce manque de... Il y a cette frilosité, hein, il y a ce manque de cohérence, qui est aussi lié au fait que la plupart de ces grands pays sont aussi gouvernés par des forces politiques qui sont plutôt conservatrices.
Alors je te propose justement qu'on balaye quelques grands points, des points durs de cette COP25. J'en ai noté trois ou quatre, peut-être que tu en ajouteras. Tu évoquais un certain nombre de pays tout à l'heure qui n'avancent pas sur leur ambition, notamment en termes de leur contribution nationale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a vu que le Danemark vient de voter une loi qui prévoit moins 70% d'émissions à l'horizon 2030. Et puis, c'est dans les négociations de cette nuit, la Chine semble avoir réussi à reporter des décisions sur la transparence de la comptabilisation justement des émissions nationales de gaz à effet de serre sur justement ces ambitions nationales. Là aussi, le compte n'y est pas selon toi, ou comment tu vois les choses?
On verra effectivement à la fin des négociations. Ce dont on a besoin, c'est une décision de COP qui oblige les États à soumettre des nouvelles feuilles de route qui soient en ligne avec la meilleure science disponible, c'est-à-dire le rapport 1.5 du GIEC qui est sorti en octobre dernier, qui avait été commandé par les États pour que les États puissent ensuite se positionner de manière éclairée sur des contributions nationales qui soient effectivement ajustées. Et donc on a besoin d'une décision de COP qui dise aux États, qui les oblige à soumettre des nouvelles feuilles de route avant mars 2020, parce que c'était ce qui a été décidé, hein, à la COP21, c'est-à-dire que les États avaient 9 à 12 mois avant la COP26, ils devaient réviser leur feuille de route, donc il reste très peu de temps. Aujourd'hui, il y a quoi, les îles Marshall, je pense, il me semble, qui a déposé proposé une feuille de route révisée. Donc le Danemark aussi s'est fixé un nouvel objectif. Maintenant, voilà, il faut qu'ils puissent l'atteindre. Mais il y a un retard qui est généralisé, une Union européenne qui est voilà, qui va peut-être arriver les mains totalement vides à la COP26, ce qui sera problématique parce que l'Inde et la Chine, par exemple, qui sont de gros émetteurs, hein, la Chine c'est le deuxième, l'Inde c'est le quatrième, derrière l'Union européenne, attendent de voir ce que vont faire les pays développés, hein, les pays qui ont la plus grande responsabilité dans la situation climatique actuelle. Si l'Europe arrive les mains vides, c'est catastrophique, hein, surtout que c'est l'accord de Paris, c'est pas l'accord de Nairobi, de Singapour ou que sais-je, c'est l'accord de Paris. Effectivement, là, le premier enjeu vraiment de cette COP 25, c'est de créer une dynamique. C'est la dernière marche avant la COP 26, donc c'est de créer une dynamique autour de ce sujet crucial de l'ambition. Si les États arrivent en 2026 avec des feuilles de route qui ne correspondent à rien, de quoi on va bien pouvoir discuter? Quel va être encore le sens des négociations au sein de l'accord de Paris en 2026?
Autre sujet d'importance, les marchés carbone, donc l'article 6 de l'accord de Paris. Là-dessus, on entend beaucoup les acteurs de la société civile qui sont présents pour faire en sorte qu'on ne s'arrête pas qu'à l'approche marché, mais qu'on s'intéresse aussi notamment au point 8 de cet article 6 qui parle des solutions hors marché. Là-dessus, c'est quoi la position de Greenpeace et comment vous voyez les choses avancer?
Alors effectivement, c'est l'article 6, c'est un article qui pourrait vraiment miner et défaire l'accord de Paris de l'intérieur. C'est à tel point qu'il faudrait mieux pas d'accord du tout, peut-être qu'avec même un mauvais accord sur l'article 6. L'article 6, c'est un article qui est relatif aux échanges de quotas carbone, grosso modo. Et là, il y a plein d'écueils, hein, mais il y a surtout deux gros écueils qui se dessinent. D'abord, est-ce que c'est celui de la double comptabilisation? C'est-à-dire, par exemple, si le Brésil, justement, bloque les négos sur cet article 6, si le Brésil vend des quotas carbone à l'extérieur, déjà, il se fait de l'argent en vendant des efforts de réduction à l'extérieur, qui voudra en plus pouvoir comptabiliser chez lui. Donc, il serait comptabilisé chez lui et chez le pays acheteur. Donc, le Brésil aurait le beurre et l'argent du beurre, en une expression populaire. Donc, ça ferait. Le résultat, c'est quoi? C'est que ça fait baisser artificiellement, hein, sur le papier, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est proprement inacceptable. Un autre sujet, c'est celui du devenir des crédits carbone qui avaient été émis sous régime du protocole de Kyoto. L'accord international précédent l'accord de Paris, protocole de Kyoto qui va justement arriver à échéance en 2020, va être remplacé par le régime de l'accord de Paris. Et donc il y a des États qui voudraient, ou des entreprises qui voudraient prolonger ces quotas carbone, sauf que ce sont des économies de carbone qui ont déjà eu lieu par le passé, donc aucun sens de les recycler dans l'accord de Paris. L'accord de Paris demande des efforts qui soient nouveaux, qui soient additionnels. Donc, c'est le critère de l'additionnalité. En plus, on a vu, il y a plusieurs études qui montrent que même sans ces quotas carbone, les émissions de gaz à effet de serre, enfin, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées auraient eu lieu de toute façon. Donc, c'est des crédits carbone qui sont pour la plupart factices. On sait que c'est un système qui fonctionnait mal sous le protocole de Kyoto, et c'est notamment ce qui a motivé l'accord de Paris. Et en plus, le protocole de Kyoto, il s'appliquait à 55, enfin, aux pays les plus émetteurs, pour simplifier, donc aux pays développés. Donc, on se retrouve avec des pays en voie de développement qui, eux, n'ont pas de crédit carbone sous le régime du protocole de Kyoto, ce qui crée, de fait, une distorsion.
Une de plus.
Entre les pays riches, voilà, une de plus entre les pays riches et les pays pauvres. Voilà, et il faut se dire que tous ces trucs de compensation, d'échange, c'est du trafic de carbone. Hein. C'est des pays riches qui veulent continuer à maintenir leurs privilèges en exportant le fardeau de tout ça sur les pays les plus pauvres, et c'est proprement inacceptable. En réalité, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'une action publique contraignante, coercitive, sur les territoires domestiques, dans les échelons internationaux, pour réduire dans l'absolu les émissions de gaz à effet de serre et pas commencer à les marchander comme des marchands de tapis, etc.
Et d'ailleurs, sur ce point, j'ai pu discuter avec un représentant de l'ONG COICA, donc qui regroupe des organisations indigènes du bassin amazonien, et il me disait que justement ces histoires de compensation, d'échange, ça se fait aussi sur le dos de ces peuples qui, eux, continuent à faire face à des projets miniers énormes au détriment de leur environnement, de leur mode de vie. Et justement, est-ce que pour les COP à venir, il n'y a pas un enjeu central sur la place des peuples et de la société civile? Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans les side events, donc ils sont à côté, en parallèle, mais ils ne sont pas entendus à la table des négociations.
Exactement, et ça, c'est le troisième point d'achoppement sur l'article 6, c'est la mention du droit des populations autochtones. Parce qu'effectivement, ces projets de compensation, souvent, on le fait. Voilà, c'est les Occidentaux qui arrivent avec leurs gros sabots, on va faire des barrages par-ci, des monocultures de forêts par-là, etc., sans consulter les populations locales autochtones qui vont se retrouver avec leur territoire noyé par des barrages, par exemple, forcés à des déplacements, etc. Donc là encore, ça n'est pas acceptable, mais c'est pas anodin ce débat sur la mention des droits des peuples autochtones. Et il y a beaucoup d'États qui justement ne veulent pas voir figurer cette référence dans l'article 6. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et là encore, on continue avec les pays riches, les entreprises, les industriels qui externalisent toutes les difficultés liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les plus vulnérables. Et ça, c'est strictement inacceptable. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait renforcer la place des populations autochtones dans ces négociations, ça, c'est sûr.
Alors, on a évoqué les ambitions nationales d'émissions de gaz à effet de serre, le marché carbone, l'article 6. Et puis, il y a aussi la question du loss and damage, les pertes et préjudices, où là encore, les négociations ont l'air de plutôt mal se passer parce que les pays du Nord essayent de dire, lorsque des pays du Sud disent, nous, ces impacts-là, c'est clairement lié à la crise climatique, et les pays du Nord viennent trouver d'autres facteurs pour essayer de sortir, d'alléger le panier en fait, des pertes et préjudices pour éviter de s'en sortir et d'y être contraint. Et c'est ce que fait depuis hier, notamment les États-Unis, par exemple.
Oui, c'est effectivement le troisième point clé des négociations. Et les pertes et préjudices, c'est un sujet qui fait l'objet d'un article plein et entier dans l'accord de Paris, l'article 8. Il y a un mécanisme associé un peu aux pertes et préjudices qui s'appelle le mécanisme de Varsovie, qui a été créé en 2013. Donc, pour l'instant, on n'a pas de transfert financier opérationnel. Et qui servirait à quoi? Le sens des pertes et préjudices, c'est que les pays les plus riches et les plus responsables du changement climatique indemnisent des dommages les pays les plus vulnérables qui subissent de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique, donc les ouragans, les inondations, etc. Et ça peut être des dégâts matériels, mais aussi socio-économiques, parce que les effets du changement climatique, c'est pas juste une maison qui s'écroule, hein. Quand il y a une ville qui disparaît, ces infrastructures publiques qui disparaissent, etc. Et donc là, l'enjeu, c'est d'avoir une gouvernance qui soit finalisée, qui soit structurée, avec des fonds sonnants et trébuchants qui soient associés, qui soient mobilisés très concrètement pour ces dédommagements. Ça pourrait être des taxes sur tous les secteurs polluants internationaux comme transport maritime ou ce genre de choses ou l'aviation. Sauf que les pays développés n'ont pas envie trop de voir ce mécanisme se développer et continuent à penser que ça doit faire l'objet des financements pour l'adaptation qui sont déjà traités par le fonds vert. Qui, en passant, n'est toujours pas abondé à hauteur. On n'est toujours pas sur les 100 milliards par an qu'il y avait. Donc voilà, alors que nous, ce qu'on demande, c'est effectivement un flux différencié qui prenne bien en compte ces problématiques qui sont différentes de l'atténuation et de l'adaptation.
Et d'ailleurs, pour souligner sur le fonds vert, comme tu le disais, on n'a pas atteint les 100 milliards. Et sur l'année 2017, on a plafonné à 70 milliards, dont 40 milliards étaient constitués par des prêts. Donc là aussi, les pays du Sud disaient... OK, on devait avoir de l'argent pour l'adaptation et finalement, on nous oblige à nous endetter pour nous adapter.
C'est un autre scandale absolu. C'est-à-dire qu'encore une fois, on cherche à se faire de l'argent sur le dos du climat et sur le dos des populations vulnérables. C'est comme le fait de vendre des quotas carbone des pays en voie de développement qui n'ont pas les marges nécessaires pour obtenir les réductions attendues. Et donc, les pays riches vont leur vendre des trucs, etc. Enfin, ça n'a aucun sens. Et effectivement, une des voies de financement possibles, c'est d'annuler une partie de la dette ou l'entièreté de la dette de ces pays du Sud pour rata des dommages subis par le changement climatique. Ça pourrait être justement une solution plutôt que de créer de la nouvelle dette.
Tu vois, toi, d'autres points clés qui sont en négociation et qui devraient, dans le meilleur des mondes, aboutir d'ici vendredi?
Il y a un point qui va être discuté un petit peu cette semaine aussi, c'est sur la question ce qu'on appelle les common time frames, les revues périodique. En fait, la périodicité des revues et des bilans sur les efforts de réduction par les différents pays. Est-ce que c'est tous les 5 ans? Est-ce que c'est tous les 10 ans? Est-ce qu'à chaque revue, on doit obtenir, aller sur des engagements qui sont à chaque fois plus ambitieux pour créer une dynamique, voilà, hein, de court terme, une dynamique vers le haut, etc. et pas rester coincé dans des niveaux d'ambition insuffisants pendant 10 ans avec aucune pression sur les décideurs politiques. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important qui va être discuté aussi cette semaine-là.
Ouais, et puis de ce que j'en ai lu, on est loin de trouver du consensus sur cette question-là également, quoi. Tu as déjà un peu parlé de la COP26. Avec tout ce qu'on a dit, la difficulté des négociations, les points de blocage qui restent des blocages, comment on peut commencer à se projeter dans cette COP26, parce que moi, il y a pas mal d'interlocuteurs dès la fin de la semaine dernière qui me disaient « Oui, alors bon, bah là, ça coince, peut-être qu'à la COP26, peut-être que l'année prochaine, etc. » Mais comme tu le disais tout à l'heure, sans ces accords, à quoi elle servira, cette COP?
Bah, c'est la question, hein. C'est pour ça que la situation est critique. On peut espérer que la pression, qui est déjà vraiment en train de se démultiplier, hein, vient de la société civile, hein, des grèves de la jeunesse pour le climat, des ONG qui sont de plus en plus, qui se radicalisent aussi, les scientifiques qui ne cessent de s'engager plus encore dans le débat, finissent par, disons, par élever le coût politique de l'inaction assez haut pour obtenir des changements de dynamique dans l'année qui vient. Hein, on peut dire qu'aux États-Unis, il y a une nouvelle élection aussi en novembre. Peut-être qu'on aura un dirigeant éco-socialiste qui changera complètement la donne, hein, parce que les États-Unis, c'est le premier émetteur mondial. Beaucoup va se jouer en fait autour de cette élection. On va voir l'Union européenne, cette nouvelle commission, un équilibre des forces qui est un peu différent. Il faut voir où on va aussi avec l'Union européenne, et puis peut-être que ça va venir aussi de multiplication de victoires politiques dans des États membres ou dans des pays développés comme au Danemark. Que voilà, on va réussir à construire une dynamique à partir de ça. Voilà, c'est effectivement toute la question, mais on est dans une période effectivement très très critique par rapport à tout ça, parce qu'on risque d'arriver en 2026, à la fin de l'année 2026, vraiment avec un multilatéralisme qui n'est plus du tout, enfin, qui aurait totalement divorcé avec les connaissances scientifiques et avec les aspirations des peuples, hein, puisque le changement climatique aujourd'hui, c'est en tête des priorités en ce qui concerne les préoccupations des citoyens et des populations. Donc voilà.
Si jamais cette COP devait s'avérer être un échec, j'ai l'impression, bon, après tout, voilà, les choses peuvent encore changer. J'entendais que la première semaine, c'était la semaine des diplomates et que cette semaine, c'était la semaine des politiques, mais tu as aussi souligné, hein, tous les décideurs, les chefs de gouvernement ou les présidents qui n'y seront pas. Néanmoins, moi, c'est ma première COP, alors peut-être que j'ai un regard un peu naïf là-dessus, mais j'ai l'impression que ce qui est fort dans ces moments-là, c'est aussi les connexions en fait entre tous les réseaux de la société civile qui se regroupent, qui échangent, qui parlent, et que de ce point de vue-là, on n'est pas dans l'échec. Ça contribue à renforcer ces liens, ces convergences aussi des luttes au niveau de la société civile.
Ah bah effectivement, les COP, elles sont cruciales pour plusieurs choses. D'abord parce que, mine de rien, elles constituent un agenda concret, hein, international, avec demande, hein, pose une pression quand même sur les épaules des dirigeants politiques, hein, qui peuvent ensuite être tenus comptables au niveau domestique de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas avancer au sein des négociations internationales. Ensuite, c'est une caisse de résonance énorme pour la science. C'est-à-dire que c'est un espace où on essaye de constituer politiquement et diplomatiquement la voie de la science, et c'est ensuite effectivement un endroit où les différentes composantes de la société civile peuvent se retrouver, échanger, se coordonner, etc. Donc les COP, elles permettent quand même de créer, de mettre en scène, de porter au plus haut niveau cette problématique politique. Rien que pour ça, elles sont très importantes.
Alors il y a une question dans ce podcast que je pose à tous mes invités, c'est comment tu vois le monde en 2050
C'est compliqué de faire la politique fiction 2050. C'est comme l'objectif de neutralité carbone à 2050, là, auquel s'accrochent tous les politiques pour éviter d'agir à court terme, pour la simple raison que c'est tellement éloigné dans le temps que de toute façon ils ne s'en sortiront pas. Sont jamais redevables. C'est compliqué. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, une des possibilités, ça que je poursuis, c'est que vraiment le consensus néolibéral est en train, en 2050, il sera, voilà, il, se sera effondrée. On voit qu'aujourd'hui, bah, justement, c'est intéressant parce que la COP 25, elle a été délocalisée à Madrid alors qu'elle devait avoir lieu au Chili. Elle a été délocalisée pourquoi? Parce qu'il y a ces manifestations monstres, hein, une ampleur inédite depuis la chute de Pinochet, contre ce régime néolibéral, hein, qui est dirigé par des milliardaires, etc. Et il y a plus d'une vingtaine de mobilisations du même ordre en cours à travers le monde. Il y a les Gilets jaunes qui continuent, et cette grève générale qui a lieu justement pendant la COP en France. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de, il y aura pas de, d'action climatique à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris, tant qu'on n'aura pas changé vraiment les rapports de pouvoir et l'économie politique néolibérale qui domine actuellement la planète. Et donc peut-être que voilà, ce rapport de force va finir par s'inverser. Je pense qu'il sera inversé en 2050. Il faut voir si en 2050 il sera trop tard, hein, ou pas. Parce que les changements de trajectoire, on en a besoin aujourd'hui, on en aurait eu besoin en fait depuis 40 ans. Donc déjà on commence à être vraiment en retard. Donc voilà, ce qui est certain, c'est que la situation sera extrêmement difficile en 2050. Il y a deux alternatives, hein. Soit ce sera un monde éclaté entre des régimes très autoritaires, soit gouverné par l'extrême droite, soit gouverné par des bourgeoisies très autoritaires qui clairement, hein, la vision humaniste aura disparu puisqu'on s'occupera plus de protéger les plus faibles, d'accueillir les migrants climatiques, etc. Mais au contraire, de dresser des barrières et d'opérer du darwinisme social à grande ampleur, ce qui est déjà un petit peu en train de se passer. Ou on aura eu l'irruption, voilà, d'un sorte d'international éco-socialiste qui aura repris les prérogatives de l'intérêt général et qui aura commencé à organiser la société différemment.
J'imagine que désormais vous êtes aussi calé que moi sur la COP. Article 6, article 8, fonds verts, droits humains, NDC, etc. Vous voilà donc parfaitement armé pour suivre, critiquer, interroger les annonces qui seront faites dès que la présidente de la COP, Carolina Schmidt, transmettra le flambeau à Claire O'Neill, qui présidera la suivante. En cas de besoin, en description, quelques liens utiles. Mais rassurez-vous, je ne vous sers pas là maintenant la conclusion de mon édition spéciale, puisqu'il reste ce fameux vendredi 13. Demain. À demain donc, et d'ici là, soyons toujours curieux.